France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Anouk Millot, Fanny Richet, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre. Et la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Un soir à 20 ans où l'on ne s'endorme avec cette colère ambiguë qui naît du vertige des occasions manquées, écrivait Paul Nizan dans La Conspiration. Nous continuons cette semaine autour du monde des grands mouvements de jeunes qui se revendiquent de la génération Z et qui ont saisi des occasions précises pour exiger plus de justice sociale. Après le Maroc, Madagascar, l'Indonésie et le Bangladesh, on parle cette semaine du Pérou, des Philippines, du Népal et de la Serbie, où le mouvement social ne faiblit pas depuis un an. Son slogan, vous avez du sang sur les mains.
Ça dure depuis trop longtemps. Nous sommes embourbés dans la corruption et le mal. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à tout cela.
Nous sommes ici pour changer la Serbie et voir enfin la fin de ce gouvernement. D'une manière ou d'une autre, nous voulons arriver à ces élections.
Les coups portés à nos enfants, la brutalité policière, honte à ce pays, honte au ministre serbe de l'Intérieur et au président serbe, honte à la police, honte à tous les policiers. Si j'étais policier, je démissionnerais.
Cette attaque contre la Serbie n'a pas commencé en Serbie. Elle est venue de l'étranger. Et ne vous faites pas d'illusions, elle est venue de l'étranger, car certains à l'étranger ne veulent pas d'une Serbie libre, indépendante et souveraine.
Des étrangers, des mercenaires, des terroristes fascistes, des citoyens anti-serbes. Aleksandar Vučić a dégainé toute la panoplie des pires insultes pour dénigrer les grandes mobilisations qui depuis un an demandent sa démission. Le président serbe s'en est même excusé dans une adresse à la Nation vendredi dernier, veille de la commémoration du drame de Novi Sad. Il y a un an maintenant que l'auvent de la gare de cette ville au nord de Belgrade s'est effondré sur les passagers en transit ou en attente d'un train. Depuis, les 16 morts de cet accident ont droit chaque jour en Serbie à 16 minutes de silence, tous les jours à partir de 11h52, donc dans 50 minutes. Leur mémoire aide à tenir et à continuer à se battre les sympathisants du grand mouvement qui réclame justice. Une commission d'enquête indépendante que des citoyens serbes ont eux-mêmes mise en place affirmait ou confirmait le mois dernier que les travaux de rénovation de la gare de Novi Sad n'avaient pas été faits dans les normes et qu'ils furent surtout une vaste entreprise de corruption pour un montant estimé à 700 millions d'euros. La main rouge sang, peinte et imprimée partout, est devenue le symbole de la contestation pour rappeler que la corruption tue. Mais pour l'instant, le pouvoir d'Aleksandar Vučić, issu de l'extrême droite nationaliste serbe, ne rompt pas. Comment s'est enracinée et transformée la mobilisation depuis un an? Qu'a-t-elle gagné de façon irrévocable puisque son nouveau slogan est « Nema nazad, pas de retour en arrière ». Bonjour Amael Katarudza.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, professeur des universités à l'IFG, c'est l'Institut français de géopolitique. Vous avez publié un atlas géopolitique des Balkans, un autre visage de l'Europe, paru aux éditions Autrement en 2012 et réédité en 2016. Nous sommes également depuis Pristina avec Louis Seyé. Bonjour.
Bonjour Julie Gacon.
Bienvenue à vous, merci d'être là. Vous êtes journaliste, correspondant pour divers médias dans les Balkans, y compris Libération, dans les feuilles desquelles, de laquelle je vous publiais la semaine dernière un reportage à Novi Sad qui se préparait à accueillir de grands cortèges en hommage aux 16 victimes d'il y a un an, samedi dernier. Est-ce que vous avez pu vérifier, Louis Seyé, les dires de la police serbe qui comptabilise 39 000 personnes au rassemblement en hommage à ses victimes?
Oui, bah effectivement, comme un peu partout, les chiffres de la police sont un peu sous-estimés parce que vu les images, c'est une grande manifestation pour encore une fois l'une des plus importantes qu'il y a eu en Serbie depuis un an. Donc l'AFP a, elle, comptabilisé autour de 100 000 personnes et puis d'autres organismes indépendants parlent plus de 150, 160 000. Donc il y avait évidemment beaucoup de monde à Novi Sad, puisque c'est une ville de même pas 400 000 habitants, autour de 350 000. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde, donc il y a des gens qui sont venus de tous les quatre coins de Serbie.
D'où alors, par exemple, dans un reportage la semaine dernière dans Libération, vous parliez de ces étudiants de Novi Pazar, dans le sud-ouest, qui étaient venus à pied.
Oui, voilà. Bah, évidemment, les étudiants, donc comme c'est eux qui mènent cette contestation, sont venus de toutes leurs universités. Et donc, par exemple, Novi Pazar, c'est vraiment une des villes situées à l'autre extrémité du pays, dans le sud-ouest. Et eux étaient partis à pied, donc avaient marché pendant 16 jours, donc du nombre des victimes de cette catastrophe. Et mais vraiment, c'est au-delà des étudiants qui sont partis de leur faculté, qui sont toujours parfois bloqués, ou en tout cas toujours secoués par leur plénum, les AG dans lesquels ils s'organisent. Vraiment, il y avait beaucoup de familles, de citoyens, enfin tous ceux qui sont touchés par ce mouvement, et ça fait vraiment beaucoup de monde maintenant en Serbie.
Pour ceux qui sont venus en train, est-ce qu'on sait si la compagnie de chemin de fer a bien acheminé tout le monde à bon port? Parce que les jours de grande mobilisation, beaucoup de Serbes se retrouvent coincés dans les trains sous prétexte d'alerte à la bombe, de mauvais état des rails. Est-ce que là, a priori, tout a fonctionné à peu près normalement?
Non, effectivement, ça a encore été coupé par les autorités le vendredi, donc la veille. C'est vrai que c'est une technique qui est régulièrement utilisée par le pouvoir à chaque veille de manifestation. Donc, mais bon, les manifestants ont quelque part l'habitude de ces techniques-là. Donc, beaucoup de gens s'étaient organisés et voilà, ça montre aussi comment la société répond au pouvoir, en fait, et à cette tentative de briser l'élan de la société. Les gens s'organisent par eux-mêmes et donc beaucoup de gens se sont organisés par du covoiturage, des bus. La plupart avaient pris leur lieu devant et s'étaient organisés en amont.
Encore faut-il que les autoroutes ne soient pas fermées. C'était le cas le 15 mars. Les autoroutes qui menaient à Belgrade avaient opportunément fermé dans les deux sens alors qu'une grande manifestation se profilait. En tout cas, là, comme vous le dites, alors selon les chiffres, 70 000, 100 000 personnes venues manifester samedi à Novograd, ou en tout cas apporter leur soutien aux familles des victimes, étaient là et bien là.
Ces gens ne sont pas morts par accident. C'est la conséquence d'un système défaillant.
Un an s'est déjà écoulé, mais personne n'a encore été tenu responsable. C'est triste.
Quand on entend et quand on regarde manifester les Serbes à Mael Katarouza depuis un an, et surtout là, aux alentours de cette date très importante du 1er novembre, ça fait un an donc que l'accident de la gare de Novi Sad a tué ces 16 personnes, est-ce que vous voyez et entendez plutôt toujours vraiment des jeunes Serbes, qu'ils soient étudiants ou non, ou des Serbes de tous les âges et de tous les horizons aujourd'hui?
Bah, c'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, bon, il y a ce mouvement étudiant qui a fait maintenant florès et qui de fait est très mobilise l'ensemble de la société serbe. C'est ça qui est important de voir et qui mobilise l'ensemble de la société serbe, qui reprend aussi le flambeau de d'autres mouvements sociaux. C'est-à-dire que en réalité, on parle aujourd'hui de ce mouvement et de la célébration des un an, mais en fait, depuis l'arrivée au pouvoir de Vučić et même un petit peu avant déjà, on avait des mouvements sociaux qui étaient d'initiatives citoyennes qui ont traversé la société serbe depuis maintenant plus d'une décennie et qui vont aller en crescendo. Donc là, on est vraiment, je dirais, à la fin d'un cycle. Enfin, on l'espère, parce que effectivement, on voit les mouvements croître et ce mouvement étudiant apporte un nouveau souffle à cet ensemble de contestations, mais qui, je répète, dès 2017, est très virulent dans la société civile serbe, quelle qu'elle soit.
On va en parler d'ailleurs plus en détail de ces de quelle colère s'est nourrie celle qui a éclaté il y a un an après la gare de Novi Sad, puisque si des colères ne lui avaient pas préexisté, ce drame aurait sans doute provoqué de la stupeur, du chagrin bien sûr, mais peut-être pas une telle colère. Je vous dirige la question également, Louis Seyé, qui est allé beaucoup en Serbie ces derniers temps à l'écoute de ces manifestants. Est-ce qu'aujourd'hui, l'appel du 28 juin dernier des étudiants qui ont officiellement passé le flambeau au reste de la société, est-ce qu'il a été entendu? Est-ce que ce flambeau a été repris par d'autres franges de la société serbe?
Oui, bien sûr. Mais alors, même avant que ce passage de flambeau officiel, donc le 28 juin dernier, lors d'une grande manifestation le jour de la fête nationale, il y avait déjà depuis mars, par exemple, les Zborovils et des sortes d'assemblées populaires qui s'étaient organisées, donc complètement citoyennes, au-delà des cercles étudiants. Et voilà, c'est vraiment la société dans son ensemble qui est touchée, qui se mobilise. Alors là, par exemple, à Novi Sad, quand je suis passé, j'ai pu voir, il y a vraiment un élan spontané aussi. Là, je suis tombé complètement par hasard sur une manifestation des agriculteurs de la région, c'est une région assez agricole, la région de Novi Sad, qui protestait devant le tribunal pour dénoncer ce qu'ils appellent les prisonniers politiques, ceux qui sont poursuivis par la justice pour telle ou telle raison. Et ils ont été rejoints par des lycéens, donc avec les chasubles jaunes, les gilets jaunes et les sifflets, donc faire beaucoup de bruit devant les tribunaux. C'est ce qui se passe quasiment tous les jours, en fait, dans plusieurs villes de Serbie. Et c'est de façon assez spontanée. Et sur le chemin, les gens qui passent, parfois, j'ai par exemple vu des livreurs qui s'arrêtaient, leur donner des bouteilles d'eau à manger, en fait. Donc, y a cet élan de solidarité aussi, au-delà de l'organisation formelle, vraiment très spontanée, qui touche vraiment beaucoup, beaucoup de monde, parce que voilà, l'envie d'en finir avec ce régime est quand même très, très forte maintenant en Serbie.
Vous avez évoqué des personnes emprisonnées, Louis Seyé. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de combien de personnes se sont retrouvées derrière les barreaux ou à minima inquiétées par la police pour avoir participé à ces manifestations? Parce que pour l'instant, si on parle vraiment simplement de répression, a priori, pas une seule balle n'a été tirée, mais on parle très souvent des médias indépendants ou proches de l'opposition qui parlent de tracteurs sans plaque d'immatriculation qui entrent dans Belgrade les jours de manifestation et se déploient autour de l'Assemblée nationale ou des points de rencontre entre les étudiants. Globalement, comment le gouvernement et les forces de l'ordre gèrent, entre guillemets, le mouvement de contestation depuis un an ?
Ben, c'est surtout une technique d'intimidation. Alors, il y a pendant longtemps, vu que les manifestations était resté très pacifique. Hein. C'est vraiment c'était, parce que maintenant, ça a peut-être un peu évolué, mais une des volontés du mouvement étudiant, de vraiment cette pratique non violente. Donc, la police réagissait de même, vu qu'il n'y avait pas vraiment de débordement. Mais il y a eu quand même, dès le début, des provocations venues des sympathisants du régime, parfois violentes, des gens qui ont été, des étudiants qui étaient renversés en voiture. Et puis, petit à petit, au fil de la contestation, et surtout à partir de cet été, à partir de cette manif du 28 juin, en août notamment, les violences ont été beaucoup plus présentes venant des forces de l'ordre qui se sont pris brutalement, pas forcément qu'aux étudiants, mais aux citoyens qui bloquaient les rues, dont parmi lesquels il y avait beaucoup d'étudiants. Donc, j'ai pas exactement les chiffres précis en tête, mais on est probablement à plusieurs. On dépasse largement la centaine d'arrestations depuis un an, ça c'est sûr. Mais souvent, les gens ressortent quelques heures après. D'autres, par contre, sont poursuivis et restent en prison plus longtemps. Mais voilà, la technique policière et de répression évolue vraiment au quotidien, j'ai envie de dire, parce que le régime ne sait pas vraiment comment contenir cette contestation. Il comptait vraiment à son affaiblissement, mais en fait, dans les faits, ça a en plus beaucoup repris de vigueur avec cette manifestation de samedi.
Le président Aleksandar Vučić ne cesse de dire qu'il a proposé 5, 6, 7 fois aux représentants du mouvement de se rencontrer, de discuter. Même, il serait allé jusqu'à leur proposer des élections anticipées. En tout cas, ce n'est pas du tout ça les manifestants disent qu'on les prend pour des imbéciles. On va entendre Aleksandar Vučić dans un instant, mais à Kataruza, de tous les pays dont on parle depuis la semaine dernière, tous les mouvements se revendiquent de la génération Z. Il faut dire que ce sont pour la plupart des pays où démographiquement les moins de 25 ans représentent une grande part de la population. Est-ce qu'en Serbie, ça a du sens de parler d'une mobilisation de la génération Z, sachant que la génération Z, ce sont tous ceux qui sont nés entre le milieu des années 90 et le début des années 2010. Quel sens ça prend particulièrement en Serbie ?
C'est effectivement une génération qui a vu son avenir s'évanouir d'une certaine manière, qui a vu les perspectives de développement économique promises par l'Union européenne disparaître parce que s'éloigner, qui a vu le régime des années 2010 de Vučić durcir progressivement le pouvoir. Alors je dis régime de début des années 2010, Vučić est au pouvoir finalement depuis 2012. Alors il n'était pas tout de suite président, il devient président
Premier
en 2012.
d'abord.
Mais voilà, il va être premier ministre en 2014. Il était vice-président du gouvernement en 2012. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va progressivement durcir le régime. Et effectivement, pour cette jeune génération, c'est un pays qu'ils ont connu, qui est un pays qui va être finalement un pays de crise et un pays dans lequel les aspirations démocratiques vont être systématiquement déçues. Et là, effectivement, l'avantage, je dirais, du mouvement qui se produit aujourd'hui par rapport aux autres mouvements dont on parlera peut-être, mais qui ont été importants également et qui se reconnaissent aujourd'hui dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui s'écarte complètement des leviers politiques traditionnels, qui est très éloigné des partis politiques qui ont tous plus ou moins été échoués, qui ont tous échoué d'une certaine manière à renverser ou à changer ce régime, et qui propose une nouvelle forme, enfin en tout cas qui essaye de proposer une nouvelle forme de démocratie. Donc les plénums dont on parle, c'est des âgés qui sont ultra démocratiques, pas de leaders qui sortent de ça. On a au contraire une distribution de la parole. Les étudiants que décident collectivement des actions à mener.
Donc, d'ailleurs, est-ce que c'est une pratique qui prend sa source dans d'autres exemples du passé en Serbie? Comment est venue à l'esprit de ces manifestants cette idée d'organiser des plénums, de voter, de respecter les résultats du vote? Ça vient d'où?
La Serbie, c'est quand même un pays très intéressant, parce que ça a toujours été un pays dans lequel on avait une intelligentsia antinationaliste, paradoxalement, parce que on a toujours les images de Milošević de ces années avec un nationalisme très fort, et dont Vučić est un peu le représentant aujourd'hui. Donc il y a ça, mais il y a aussi en Serbie des mouvements antinationalistes très forts qui commencent dans les années 90 et qui vont toujours coexister, et qui aujourd'hui, on va dire, ces étudiants sont un petit peu cette image-là. Ils donnent cette image de ces mouvements démocratiques. On parlait d'ailleurs tout à l'heure des mouvements de Novi Pazar, là, les jeunes qui sont partis de Novi Pazar. Novi Pazar, c'est très intéressant, c'est une ville essentiellement bosniaque, musulmane. Ces jeunes viennent, essentiellement musulmans de Serbie, viennent promouvoir aussi une Serbie multiethnique, multiculturelle. Voilà, donc là, il y a...
À rebours des discours politiques aujourd'hui dans les Balkans.
Exactement, à rebours de ce nationalisme qui a été instrumentalisé par Vučić depuis son arrivée au pouvoir.
Et qui était instrumentalisé en son temps par Slobodan Milošević. Louis Seyer, cette mémoire-là, elle existe chez les jeunes de se revendiquant de la génération Z qui aujourd'hui manifeste en Serbie.
En posant la question, je trouve ça intéressant parce que j'ai rencontré évidemment beaucoup de ces étudiants, mais en fait je crois qu'aucun m'a mentionné ce côté génération Z. Par contre, donc le nom génération Z, donc peut-être que ça leur parle pas évidemment, mais il y a vraiment ce côté générationnel par contre, parce qu'en fait je voulais ajouter ça, c'est que c'est une génération qui n'a connu que le système Vučić, en fait, puisque la plupart on avait 7, 6, 7, 8 9 ans quand il est arrivé au pouvoir. Donc le système Vučić, c'est un peu ce qu'ils ont connu. Donc ils veulent passer à autre chose, en fait. Et donc certaines mobilisations qui ont été évoquées précédemment, ils les ont vues. Ils ont été aussi longtemps perçus comme une génération apathique, mais en fait ils ont quand même compris comment les choses allaient. Là, une des personnes que j'ai rencontrées dans les précédentes mobilisations qu'Amel évoquait, donc par exemple des grandes manifestations anticorruption en 2018, j'étais étonné qu'il soit pas du tout participant, actif dans ces mobilisations-là. Mais en fait, il me disait que ces étudiants avaient fait comme un cours d'activisme intensif et avaient appris très très vite. Et donc, en fait, ils puisent dans ce qui s'est passé ces dernières années dans les mobilisations contre le pouvoir.
En tout
cas, ils ont effectivement appris.
Seuls les plus âgés, entre guillemets, en tout cas pas les plus jeunes, ont connu l'époque de Slobodan Milošević, qui a été d'abord président serbe de 89 à 97, puis président de la République fédérale de Yougoslavie entre 1997 et 2000, et qui avait été renversé et arrêté suite à des mouvements de masse qui se soulevaient face à des élections qui semblaient truquées. Tous n'ont pas cette mémoire-là, mais néanmoins, elle subsiste chez beaucoup. Amel Katarudza, si le mouvement a été lancé par des jeunes, est-ce que c'est aussi d'une certaine façon parce qu'ils n'ont rien à perdre? Quelles sont les perspectives des jeunes Serbes aujourd'hui, notamment en termes d'emploi, tout simplement?
Elles sont faibles et d'ailleurs ça se traduit par une émigration. Hein. C'est un pays qui perd de la population, la Serbie. Hein. Le dernier recensement, c'était entre 2011 et 2023, 550 000 habitants de moins. Donc c'est quand même un pays qui est peu attractif pour sa jeunesse.
Donc ils n'ont pas plus rien à perdre, ils ont tout à gagner.
Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi il est peu attractif ? Surtout parce que en fait, ce système qui est verrouillé autour d'un clientélisme de masse. Le système Vučić, c'est du clientélisme, et c'est du clientélisme autour d'un petit clan, finalement. Et c'est ce qui va nous rappeler les années 90, c'est-à-dire qu'en fait, les héritiers de cette période post-yougoslave, dont on a cru que ce serait une période ultra-démocratique, et en réalité, qui va être accaparée par des anciens apparatchiks qui vont profiter des privatisations, profiter de ces années de guerre, c'est le même système qui est tenu par Vučić, et ces jeunes finalement sont dans un système dans lequel les richesses sont accaparées par un petit clan, voilà. Donc c'est ça qui entre guillemets aujourd'hui sur la sellette, si vous voulez. C'est l'une des principales revendications, c'est la transparence, c'est d'une certaine manière aussi une forme d'état de droit dans lequel ils pourraient se retrouver.
Ce qui a été le cas dans toutes les récentes mobilisations de la société serbe depuis les années 2010 que vous avez évoqué l'un et l'autre, Amel Katarudza et Louis Seyé. De quelle colère précédente, Louis Seyé, cet accident de la gare de Novi Sad a-t-elle été en quelque sorte le catalyseur ? Est-ce qu'à chaque fois il s'est agi, que ce soit de la mine de lithium dans la vallée du Jadar ou du projet de rénovation de la capitale Belgrade Waterfront, est-ce qu'à chaque fois il s'est agi de contester une accaparation des richesses, une privatisation des biens publics ? Comment expliquer que cette colère aujourd'hui soit l'écho de colères précédentes qui finalement n'avaient abouti à rien à ce moment-là?
Oui, c'est un ensemble de tout ce que vous évoquez. En fait, il y a eu aussi d'importantes mobilisations, par exemple en 2023, contre la violence, après des deux tueries de masse qui ont vraiment choqué l'opinion. Et là aussi, il y avait vraiment plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées sur les boulevards de Belgrade.
Des fusillades en 2023, semaines. Un adolescent qui avait tué 8 élèves et un surveillant dans sa propre école du centre de Belgrade. Et moins de 48 heures plus tard, un homme qui avait tiré et tué 8 personnes dans plusieurs villages autour de la capitale. Et là, les manifestations demandaient de faire interdire les chaînes de télévision qui diffusent du contenu violent et tous les journaux proches du gouvernement qui sont accusés d'attiser les tensions entre les Serbes.
Voilà, exactement. Mais c'est en fait, donc au-delà de la corruption, il y a aussi le système Vučić, c'est tout ça en fait. Et comme Amel le disait, Aleksandar Vučić et les gens qui sont autour de lui viennent des années 90. Et ça, la société serbe, enfin en tout cas ceux qui manifestent, en sont profondément conscients. Et ils veulent, là, ce qui ressort aussi des toutes récentes manifestations, de la part de ces jeunes, c'est vraiment, ils se voient eux-mêmes comme le dernier espoir de la Serbie, la dernière chance de changer les choses, parce que sinon, ils voient ce pays comme s'effondrer d'un point de vue pas seulement moral, mais économique, avec aucune perspective pour eux, puisque tout est tenu par ce système clientéliste. Et ce qui m'a vraiment frappé la dernière fois, là, à Novi Sad, alors je pense que la ville est évidemment traumatisée par cet événement, parce que la gare venait d'être rénovée à grands frais, donc on évoque une commission indépendante à estimer à 700 millions d'euros, la corruption autour du projet de rénovation de la gare et du projet de chemin de fer vers Budapest, donc c'est quand même des chiffres conséquents. Mais ce que les gens évoquaient de différentes générations, les jeunes ou les plus âgés, c'était vraiment c'est moi la prochaine victime en fait, parce que tout ce que a construit ce système, c'est-à-dire en termes d'infrastructure, vu que ces marchés publics fonctionnent de cette manière-là, les gens se sentent vraiment en danger. Qu'est-ce qui va s'effondrer sur moi quand je passe proche de tel ou tel bâtiment, sur telle autoroute qui a été construite dans ces 10 dernières années, quoi.
Or, il se trouve, Amel Katarudza, vous avez vécu en Serbie plutôt à la fin des années 2000, mais que vous avez vu la capitale évoluer dans ces paysages assez rapidement, mais surtout un peu plus tard, à partir, je crois, de 2014-2015, quand a commencé ce grand projet de rénovation de la capitale Belgrade Waterfront. Comment vous avez vu changer la capitale et quels problèmes ça pose aujourd'hui aux citoyens? Et déjà à l'époque, ce mouvement né d'Avimo Belgrade, ne noyons pas Belgrade, qu'est-ce qui était dénoncé?
Justement, ce clientélisme, c'est-à-dire qu'en fait, ce projet dont vous parlez, Belgrade Waterfront, donc c'est un gigantesque projet de construction immobilière autour de la Save, qui était le lieu de balade et de traditionnel des Belgradois, mais en fait qui va être vendu d'une certaine manière à une compagnie immobilière des Émirats arabes et qui en fait est symbolique finalement de tous ces projets qui vont transformer la capitale, mais qui vont aussi transformer le pays avec des investissements un peu étrangers mal contrôlés qui vont profiter à une toute petite caste autour du président, on va dire, autour de ces donc en fait effectivement là il y a une société qui non seulement devient opaque, l'espace public est vendu au plus offrant ce qu'on a vu c'est effectivement aussi après l'arrivée au pouvoir de Vučić, un contrôle de l'information avec la mise en place de télévisions privées qui vont finalement servir une espèce de contenu culturel baigné de nationalisme, de violence, des tabloïds qui deviennent principales sources d'informations. Et ça, effectivement, ça nourrit dès les débuts des années 2010 une forme de contestation. Vous parlez de Nedavimo Beograd, qui était un mouvement d'initiative citoyenne qui n'avait pas de traduction politique au départ. Il va en avoir plus tard. Mais
Nedavimo Front de gauche verte, c'est ça, le parti qui est...
Donc ça devient un parti politique en 2023, mais en réalité, au départ, c'est d'abord un mouvement de Belgradois qui s'oppose à la privatisation de l'espace public et à cette espèce de partage des richesses autour d'une petite caste, en fait. Et c'est vraiment cette société-là que je pense qui aujourd'hui est remise en cause par le mouvement étudiant, et encore une fois, dans une lignée, finalement, de différents mouvements qui ont eu lieu dès 2014 avec Nedavimo Beograd, mais on va avoir aussi des mouvements en 2018 suite à un opposant politique qui va être
inquiété,
qu'inquiété, qui va être molesté à coup de barre de fer, et donc on a déjà des mouvements anti-violence qui se créent en 2018. En 2019, il y a cette histoire du lithium, effectivement, qui va mobiliser l'ensemble de la société serbe, et idem en 2023, ces manifestations après les fusillades, qui en fait vont parcourir plusieurs mois. On en parlait assez peu, mais pendant plusieurs mois, plusieurs villes serbes manifestent contre la violence et contre cette société.
Cette contestation contre la mine de lithium dans la vallée du Jadar, c'est vrai qu'elle existe depuis maintenant plusieurs années, avec cette idée, comme l'a dit une ministre, de faire de la Serbie une nouvelle Norvège, mais avec du lithium. C'est à l'entreprise anglo-australienne Rio Tinto qu'a été confiée la production de carbonate de lithium. Alors Rio Tinto espère produire chaque année 58 000 tonnes de carbonate de lithium. Ça donne 11 000 tonnes de lithium pur qui peut alimenter plus d'un million de véhicules. On voit l'intérêt économique qu'a la Serbie, en tout cas le pouvoir nationaliste, à ouvrir cette mine et à en confier la production à une grosse entreprise. Par ailleurs, Louis Seyer, ce projet, pour revenir un instant sur le projet de rénovation de Belgrade, est-ce qu'il est habité aujourd'hui, ce quartier qui a été complètement refait avec les investissements d'un milliardaire dubaïote, Mohamed Alabar, où les logements sont restés vides? À qui sont-ils accessibles financièrement et donc destinés, ces logements-là?
Oui, non, ils sont en partie habités. Alors, ça reste, surtout vu de loin, vu des ponts qui traversent la Save, un énorme chantier. Donc, moi, je viens régulièrement tous les deux ou trois mois, et à chaque fois, je vois un nouvel immeuble résidentiel. Donc, c'est vraiment un immense chantier, et il est en partie habité. Il y a des commerces. Voilà, c'est une sorte de grosse zone commerciale résidentielle. Et alors on ne sait pas trop qui habite. Hein. Certains disent que le parti a obligé ses adhérents à acheter des appartements et à y loger leur famille. Mais il y a aussi, alors il y a un élément important aussi qui a profondément changé la physionomie de Belgrade depuis maintenant bientôt 4 ans et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, puisque beaucoup de Russes se sont exilés ou en tout cas se sont déplacés pour vivre à Belgrade, et donc il y a beaucoup de Russes qui ont évidemment un autre niveau de vie que les Serbes, et voilà, en grande partie, ces appartements sont aussi habités par des Russes aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a d'autres projets immobiliers de ce type? Il était question que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, fasse construire des hôtels 5 étoiles dans le centre de Belgrade, sur le terrain de l'ancien QG de l'armée.
Oui, alors c'est un projet pour l'instant qui est plutôt, je dirais, en stand-by. On ne sait pas trop quelles sont les relations actuelles entre l'administration Trump et le régime de Vučić. A priori, ça ne se passe pas aussi bien qu'il l'aurait espéré. Et ce projet est plus ou moins en stand-by parce qu'apparemment, là aussi, on touche à la corruption puisque le lieu qui est un lieu de mémoire est donc administré par les bâtiments protégés, enfin les bâtiments culturels protégés. Le permis qui aurait été donné aurait été falsifié, donc la personne aurait été mise en cause, donc ça a participé aussi, pour l'instant en tout cas, au ralentissement. On ne sait pas très bien où en est ce projet aujourd'hui.
Un article du journal Index, traduit par Courrier International, racontait qu'en 2016, un an après la signature du contrat entre l'État serbe et l'investisseur dubaïote, des personnes cagoulées sont arrivées le long de la Save, l'affluent du Danube, qui traverse Belgrade avec des battes de baseball, des machines de chantier pour chasser les habitants des quartiers historiques et commencer la destruction là où se trouve aujourd'hui un gratte-ciel, un centre commercial et des boutiques de luxe. Il y a aussi ces stades flambant neufs à côté d'hôpitaux complètement délabrés, ce qui n'est pas sans faire penser aux mobilisations au Maroc dont on parlait lundi dernier, des hôpitaux, pas des stades. Alors, vous disiez, Amael Katarouza, que à l'époque, le mouvement était devenu en quelque sorte parti politique, le parti Front de la Gauche Verte formé après ces grandes mobilisations de 2018 contre les projets immobiliers dans Belgrade. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des liens, des ponts entre les mobilisations qui ont repris et puissance 10 depuis un an en Serbie et des partis politiques ou simplement des personnes qui veulent bien se lancer en politique?
Alors, a priori, oui, il y a des sympathies, il y a des formes de sympathie, et je l'ai dit, il y a une forme de sympathie assez large dans la société serbe. Après, effectivement, c'est un mouvement qui s'est voulu et qui se veut toujours apolitique. Donc, en fait, c'est un peu aussi la force de ce mouvement et sa faiblesse, parce que la traduction politique du mouvement est pas évidente, si vous voulez. C'est quelque chose qui peut-être différencie ce mouvement actuel, même si faudra voir l'évolution, du mouvement des années 2000 contre Milošević, qui, lui, avait une très forte incarnation politique à travers un mouvement démocratique, alors qui était en fait une coalition, hein, mais qui était clairement incarné. On se souvient de Zoran Djindjic, on se souvient de Vojislav Koštunica, donc c'était ceux qui vont prendre le pouvoir après la chute de Milošević. Ici, là, on a effectivement une question de savoir quelle va être l'incarnation politique de ce mouvement, et ça, pour le moment, on n'a pas la réponse, je dirais.
Louseyet, si le mouvement exige aujourd'hui des élections, élections anticipées, est-ce qu'il se tient prêt pour y participer, pour présenter des candidats et des listes?
Oui, alors c'est quand même quelque chose qui a évolué là depuis un an, parce qu'au début, effectivement, c'était vraiment un mouvement complètement apolitique, qui se tenait à l'écart avec un grand scepticisme sur les partis politiques d'opposition. Mais là, ça fait plusieurs mois qu'il demande effectivement ces élections anticipées, et depuis plusieurs semaines, il prépare une liste avec différentes personnalités dont il taise les noms pour l'instant pour éviter qu'il soit la cible des médias pro-régime. Et donc on ne sait pas très bien qui est sur cette liste, il y a beaucoup de rumeurs, mais en tout cas ils sont préparés, et il y a certains organismes indépendants ont fait quelques sondages ces dernières semaines qui les donneraient en cas de soutien par l'ensemble des partis d'opposition, donc ça fait quand même du conditionnel, devant la liste du SNS, du parti de Aleksandar Vučić. Donc ça permet quand même de mesurer un certain soutien encore assez massif dans l'opinion, même s'il y a beaucoup de points d'interrogation sur leur ligne politique, effectivement.
Quant à Aleksandar Vučić, il ne cesse de dire qu'il s'est proposé déjà pour des débats publics, pour discuter avec les manifestants. Il l'a redit samedi, jour de la commémoration du un an, enfin de la première année après l'accident de la gare de Novi Sad.
Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons créer quelque chose de mieux. Une véritable justice doit être rendue pour les vies perdues en ce jour fatidique. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais pas une justice inventée dans la rue, une justice rendue par les institutions.
En attendant, la seule chose très concrète qu'il ait promis aux étudiants, ou en tout cas proposé aux étudiants serbes qui manifestent contre lui, Aleksandar Vučić, c'est d'acheter des appartements à taux zéro. Ça n'a pas tellement pris dans l'opinion. Alors, puisque le slogan du mouvement est aujourd'hui « Noma Nadzad », pas de retour en arrière, qu'a obtenu au fur et à mesure, qu'a amassé la pierre du mouvement, entre guillemets, à mesure qu'elle roulait de ville en ville et de village en village pour sensibiliser partout en Serbie et exposer ses revendications? Qu'est-ce qu'elle a amassé qu'on ne puisse plus lui retirer, Louseyet?
Ben, je dirais que c'est vraiment l'état d'esprit. Il y a vraiment quelque chose qui a profondément changé. Les gens, alors évidemment, ça dépend de leur proximité avec ce mouvement. Là, à Novi Sad, juste avant ce rassemblement, les gens étaient vraiment sur ce régime est fini. C'est juste une question de temps. Et évidemment, plus la pression est forte, plus ils ont peur et plus ils redoublent d'attaques, tout en par moment, comme là ce vendredi avec cette lettre de regret officielle du président, en jouant la tentative d'apaisement. Mais il y a une sorte de libération. En tout cas, il y a beaucoup de fois l'expression « on n'a plus peur » qui revient. Et ça concerne aussi les personnes d'une autre génération, parce qu'effectivement, les étudiants sont peut-être moins concernés. Mais les gens parlent beaucoup plus ouvertement des problèmes de la Serbie en général. Tout à l'heure, vous évoquiez aussi les projets du Waterfront à Belgrade, où la caste qui s'enrichit était peut-être moins visée ouvertement aujourd'hui que ce que font les Serbes qui manifestent. Ils pointent aussi régulièrement les liens avec des personnalités de la pègre, vraiment de la sphère criminelle, parce que beaucoup de médias indépendants, qui sont évidemment la cible du régime depuis plusieurs années, avaient pointé aussi les liens un peu sulfureux du régime Vučić avec cette société-là. Et là, les gens n'ont plus peur de le dire, en fait, officiellement. Là, ça revient très, très régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui était encore impensable, surtout dans des villes de taille moyenne, plus petite, autre qu'à Belgrade. Voilà, ça c'est plutôt l'état d'esprit. Parce qu'après, en termes de résultats concrets, il y a eu la démission du Premier ministre, mais ça remonte maintenant à janvier. Et en fait, elle n'a pas changé grand-chose. Il y a eu un nouvel gouvernement appointé un peu plus tard. Mais en fait, le mouvement, et particulièrement les étudiants, n'attendent pas grand-chose des nouvelles institutions tant que ça fonctionne dans le système Vučić avec ce réseau clientéliste. Voilà, ils veulent des changements profonds et donc ça passe pour eux actuellement par des élections. Mais ces élections, il faut qu'elles soient libres et transparentes. Et c'est ça l'enjeu actuel aussi.
Amel Katarouza, ce que ces manifestants ont sans doute aussi obtenu à force d'aller dans les campagnes pour parler à tout le monde avec ces grandes assemblées générales, populaires, une forme de démocratie directe qui, semble-t-il, a convaincu pas mal de monde de venir, y compris des personnes d'horizons très différents, des associations agricoles notamment. Peut-être ont-ils réussi à faire prendre conscience d'abord que derrière la vitrine économique d'Aleksandar Vučić, qui ne cesse de vanter son bilan en la matière, la Serbie reste très inégalitaire. Vous nous parliez tout à l'heure de ces campagnes délabrées, mais aussi que les médias officiels sont à la solde de Vučić, parce que c'est ce que vous dites tous les deux. Est-ce que c'est quelque chose qui a pris aussi dans l'opinion, qu'il y a une prise de conscience à ce sujet?
Bah oui, je pense. En fait, c'est vraiment. Je pense que la force de ce mouvement, c'est d'avoir proposé une vision de la Serbie alternative à celle qui était proposée à la fois dans les médias, mais qui reposait aussi, et Louis l'a bien rappelé, sur la peur. C'est-à-dire qu'effectivement, le système clientéliste, qui est nourri aussi de liens avec la pègre, avec un certain nombre de clans. Là aussi, issu des années 90, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est dans une transition, on va dire, très, qui ne se termine pas, en réalité. Beaucoup de choses rappellent ce système des années 90 de Slobodan Milošević, dont est issu Vučić. Donc voilà, il y a quand même une continuité. Là, effectivement, il y a une perspective offerte par ces étudiants, qui est une perspective un peu nouvelle, et ils font sauter d'une certaine manière le verrou de cette peur qui bloquait un petit peu l'ensemble de la société et dont toute la société était consciente. Voilà, donc là, je pense que oui, il y a une prise de conscience, pour répondre à votre question, et c'est une prise de conscience qui s'accompagne du fait que ce mouvement grandit et que vraisemblablement le pouvoir politique n'arrive pas à l'arrêter, le juguler. Et donc là, il y a quelque chose qui saute.
Peut-être que de nombreux Serbes ne regardent plus comme avant ou plus avec le même regard la radio-télévision nationale serbe. Dans son très regardé journal de 19h30, elle n'a commencé à parler sérieusement et longuement des manifestations que le 15 mars, date à laquelle 300 000 personnes avaient paralysé Belgrade toute la journée. Donc elle ne pouvait plus ne pas en parler. La télévision avait d'ailleurs ce jour-là délocalisé son studio de peur des débordements. En revanche, les manifestants seraient plus conciliants avec la radio publique serbe, dont un présentateur a poussé un jour un gros soupir en lisant un communiqué très langue de bois d'Aleksandar Vučić et l'avait ensuite ostensiblement froissé. Because
crnju poškrapani. Zrno zrije u suncu trepti moje rodno selo, no mutni oblak pritiska mi čelo i u dno duše grom pada i bije. Sutra kad oštri zablistaju srpi i snop do snopa kao zlato pane, snova će teći krv iz moje rane,
glas je moje ispod koli brda
i snova pati, seljače i trpi svu muku tvoju. Napor crnog groba poješće silni pri gozbi i piru, a tebi samo ko psu sinđiru.
Le groupe Constracta et le groupe Zemija Gruva, tous les deux originaires de Serbie. Constracta avait d'ailleurs représenté la Serbie à l'Eurovision il y a quelques années. Vous écoutez Culture Monde, la suite de notre série sur la colère universelle provoquée par les inégalités et la série de grands mouvements populaires et sociaux qui ont surgi ces dernières semaines en différents endroits du globe. Aujourd'hui en Serbie, vous avez du sang sur les mains, disent les manifestants au président Aleksandar Vučić, déplorant pour certains que l'Union européenne mette du temps à réagir.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Mr. President, now is the moment for Serbia to get concrete about joining our union.
Monsieur le Président, il est temps pour la Serbie de faire des efforts concrets pour rejoindre notre union.
On the rule of law, the electoral framework and media freedom.
Nous devons constater des progrès en matière d'état de droit, de cadre électoral et de liberté des médias. Je sais que ces réformes ne sont pas simples. Elles exigent de la patience et de l'endurance. Elles doivent inclure toutes les franges de la société et de l'échiquier politique. Mais elles en valent la peine.
Ursula von der Leyen, lors de sa visite à Aleksandar Vučić le 15 octobre dernier, en Serbie, candidate à l'adhésion à l'Union européenne et formellement reconnue comme telle en 2012. Bonjour Benjamin Couteau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors. Vous venez de faire paraître une note, Serbie et Union européenne à l'heure des choix. D'abord, dans ce discours du 15 octobre, est-ce qu'Ursula von der Leyen s'adressait davantage à Aleksandar Vučić ou à tous les manifestants qui, depuis un an, mettent la légitimité de leur président au défi? Autrement dit, est-ce qu'elle a manifesté, ne serait-ce que l'idée qu'elle les avait entendus?
Je crois qu'elle s'adressait aux deux, mais effectivement à la population qui, depuis un an, s'est sentie, depuis un an et même on en a parlé pendant cette émission, vous l'avez rappelé justement, depuis une décennie de manifestations où les manifestants se sentent, les citoyens de manière générale, les citoyens serbes, de plus en plus lâchés par l'Union européenne. Bien sûr qu'on a ces manifestations-là qui sont massives et qui font qu'on se retrouve aujourd'hui pour en parler, heureusement. Mais comme ça a été mentionné, ça fait 10 ans que la Serbie décline sur tous les pans. Quand on parle de démocratie, d'état de droit, de liberté de la presse, ça a été démontré par à peu près toutes les organisations de la société civile qui existent, hein, de Reporters sans frontières à Freedom House. Donc ce que disait von der Leyen, c'était peut-être pour la première fois de manière aussi concrète, on vous a compris. Donc, c'était effectivement adressé aux manifestants, mais c'était aussi adressé à Aleksandar Vučić. Et le changement dans le ton est assez intéressant, parce que ce qu'a retenu tout le monde en Serbie, peut-être plus que du côté de l'Union européenne, c'est que l'année précédente, quelques semaines, elle fait cette tournée dans les Balkans occidentaux tous les ans à la Ursula von der Leyen. L'année dernière, juste avant, 2 semaines avant l'effondrement de la gare de Novi Sad, de l'auvent de la gare de Novi Sad, elle avait dit « Cher Aleksandar, bravo pour tous vos progrès ». Et ce « cher Aleksandar », il est resté en tête de tous les Serbes pendant une année de manifestation. Ursula von der Leyen ne s'était pas exprimée officiellement. C'est la première fois que la présidente de la Commission européenne a mis la pression sur Aleksandar Vučić et son gouvernement, son régime, de manière aussi concrète. Et ça, c'était vraiment attendu. comme vous l'avez dit, message pour Aleksandar Vučić, mais aussi pour la société civile.
Parce que l'Union européenne a-t-elle en Serbie des intérêts qui ont dicté à Ursula von der Leyen cette attitude prudente jusque-là ?
Elle l'a dicté à Ursula von der Leyen à travers ses États membres, je pense avant tout. Forcément, la Commission européenne, elle a un agenda qui est pro-élargissement de manière renouvelée depuis l'invasion russe de l'Ukraine. On s'est rendu compte que ce n'était pas une faveur faite à des États qui seraient plus petits, plus fragiles, que ce n'était pas juste un exercice technocratique. L'élargissement de l'Union européenne, c'est un investissement géopolitique pour protéger notre continent. Parce qu'il n'y a pas de projet européen sans pays européen et qu'on ne peut pas faire la paix sur le continent européen avec la moitié des pays. Donc on s'est dit que cette fois-ci, on allait être sérieux avec les Balkans occidentaux au niveau de la Commission européenne, alors que depuis 20 ans, on hésitait, on n'était pas certain de vouloir les faire rentrer tout de suite, on ne savait pas trop comment. Jean-Claude Juncker avait dit, ancien président de la Commission européenne en 2014, ce ne sera pas sous mon mandat, ce qui avait été très mal pris de la part de ces pays candidats-là. Donc, Ursula von der Leyen, je disais ça parce qu'elle incarne cet agenda pro-élargissement renouvelé. Derrière, les États membres ne suivent pas forcément. Et en fait, elle est tenue par ces États membres-là parce qu'il faut l'unanimité au Conseil pour arriver à faire des progrès sur la candidature de n'importe quel pays auprès de l'Union européenne. Et donc, elle peut dire ce qu'elle veut, mais derrière, le Conseil freine des cas de fer en disant « Attention, on a des intérêts économiques avec la Serbie, notamment la France et l'Allemagne. » Vous voulez y venir?
Ben voilà, parce que la France qui a signé un accord d'achat pour la vente à la Serbie de 12 rafales pour 2,7 milliards d'euros, l'Allemagne qui soutient très fortement le projet de la mine de lithium dont on parlait tout à l'heure, ce sont elles jusqu'à présent qui ont bloqué, France et Allemagne, qui ont bloqué qui ont dit à Ursula von der Leyen « N'allons pas trop vite en besogne pour qu'on d'année Aleksandar Vučić.
Effectivement, et compte tenu de leur poids au sein de l'Union européenne, ce sont des États qui comptent. Mais il ne faut pas oublier la Hongrie, qui est quand même, à travers Viktor Orban et tout son axe illibéral, aussi un fauteur de troubles au sein du Conseil européen, qui n'a aucun problème à bloquer la candidature de l'Ukraine et à soutenir un maximum celle de la Serbie. Mais la France et l'Allemagne ont un rôle déterminant dedans. On a une passivité quand même assez déconcertante de la part notamment du président de la République française, parce que Aleksandar Vučić a exercé avec la France sa politique transactionnelle habituelle qui lui a permis d'avoir un rôle d'équilibriste, qui est aujourd'hui en danger, mais un rôle d'équilibriste depuis 10 ans entre Washington, mais surtout Bruxelles, Moscou, Pékin, en recevant plus de 18 milliards, selon les dernières informations d'un média de la région des Balkans occidentaux, plus de 18 milliards de la Chine, en recevant le soutien de Moscou, qui n'est pas forcément très important économiquement, mais la Russie est dépendante de l'énergie russe, et pour arriver à obtenir le soutien de la France, c'est pas seulement des rafales que la Serbie a achetées, des rafales en plus financées en empruntant à des banques françaises, donc la France est doublement gagnante en faisant à peu près ce que fait la Chine, mais c'est aussi la gestion de l'aéroport de Belgrade, la construction du métro de Belgrade, qui sont en réalité des cadeaux empoisonnés. Vučić essaie d'arriver à essayer d'obtenir le soutien de ces pays-là qui sont indispensables sur son chemin européen, en donnant, quand je parle du métro de Belgrade, et que je dis que c'est un cadeau empoisonné, en donnant des contrats qui ne seront jamais réalisés, parce que ça fait 60 ans que le métro de Belgrade est en discussion. C'est un serpent de mer. La France n'arrivant pas à avancer dessus, une entreprise chinoise a en plus été adossée à ce projet-là, et ça rappelle des mauvais souvenirs, parce qu'une entreprise française était impliquée dans la rénovation de la gare de Novi Sad à côté d'entreprises chinoises et hongroises.
Vous rappeliez que la Serbie est ultra-dépendante de l'énergie russe, 70% de son pétrole, 80% de son gaz. Est-ce qu'elle a entrepris quoi que ce soit ces derniers temps pour réduire sa dépendance, et que dire par ailleurs de sa dépendance quand même toujours avec l'Union européenne qui reste son premier débouché en matière d'exportation, 61% je crois.
Absolument pas, c'est toute la politique d'équilibriste d'Aleksandar Vučić. Il dit à l'Union européenne, oui, on fait les réformes, on va y arriver, mais on voit très bien que ce qu'a demandé Ursula von der Leyen le 15 octobre, c'est de faire réellement les réformes, notamment sur le point de vue, sur le plan électoral qui n'était pas fait. Et à côté de ça, il dit à Vladimir Poutine, en fait j'ai quand même besoin de soutien sur le Kosovo, et la question de l'énergie elle est fondamentale, parce que ça a été rappelé pendant cette émission, Aleksandar Vučić a bâti son succès sur les infrastructures bâties en Serbie et sur la bonne santé de l'économie serbe. Et pourquoi cette économie est aussi performante ? C'est parce qu'elle bénéficie des prix de l'énergie les plus faibles sur le continent. Donc s'il veut continuer à avoir ce succès-là, il est obligé d'aller chercher Vladimir Poutine pour avoir ses avantages. Mais par contre, ce qu'on voit arriver, c'est que depuis les sanctions qui ont pris effet, ce qui était inattendu, ça a été mentionné aussi, hein, le fait que les rapports entre Alexandra Vucic et l'administration Trump sont assez ambivalents. Les États-Unis ont refusé de prolonger la suspension des sanctions sur la seule compagnie pétrolière serbe. Donc depuis le 9 octobre, ces sanctions sont entrées en vigueur. Pourquoi ? Parce que Donald Trump veut toucher l'économie russe à travers l'énergie. Donc tout ce qui est possédé par la Russie en termes d'entreprise a été plus ou moins touché. C'est le cas de cette compagnie-là. Et la Russie a dit à Alexandra Vucic, nous n'allons pas renoncer à notre propriété de cette compagnie-là. Donc c'est à vous de trouver des solutions. Sauf que si Alexandra Vucic n'en trouve pas, la Serbie va être plongée dans le noir cet hiver. Et c'est tout là que la politique d'équilibriste Alexandra Vucic touche ses limites. Parce que s'il n'y arrive pas, il va à la fois perdre le soutien de sa population qui va se retrouver dans le noir. Et en même temps, celui des États-Unis qui impose ses sanctions et de l'Union européenne qui, vous en parlez, demande la diversification de ses sources d'approvisionnement.
Et pour conclure, Benjamin Couteau, dans le sillage de ces dernières déclarations, la présidente de la Commission européenne qui a voulu se montrer un peu plus ferme qu'avant, est-ce que le processus d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne peut être mis à mal ? Est-ce que la Commission peut avoir l'intention de bloquer le dossier ?
Mais encore une fois, ça c'est du ressort des États membres. Pour qu'on arrive à une telle situation, il faut que le Conseil européen le décide dans ses conclusions. C'est ce qui s'est fait pour la Turquie, c'est ce qui s'est fait pour la Géorgie. Et donc, c'est possible que ce soit le cas pour la Serbie. Mais à nouveau, les conclusions du Conseil européen, elles sont adoptées à l'unanimité. On a vu qu'il y avait maintenant des dérogations. On fait souvent des déclarations à 26 pour éviter le veto hongrois. Mais en réalité, même au sein de ces pays, en dehors de la Hongrie, au sein des pays, des États membres de l'Union européenne, la France et l'Allemagne, je pense, ne sont pas prêtes à faire ce pas-là.
Merci beaucoup, Benjamin Couteau. Je renvoie les auditeurs vers votre note. On met le lien sur le site de Culture Monde. Serbie et Union européenne à l'heure des choix que vous avez rédigé pour l'Institut Jacques Delors, où vous êtes chercheur au Centre Grande Europe. Une petite réaction de nos invités. Louis Seyer, d'ailleurs, qui vous êtes rendu très régulièrement en Serbie ces derniers temps. Est-ce que dans les cortèges, on peut parler de pro-européens et d'anti-européens ? Est-ce que ça se lie avec ces lunettes-là, ce qui est en train de se passer en Serbie ? On sait, comme il faut le dire avec prudence, en Géorgie, on l'a suffisamment expliqué que c'est pas parce qu'on est contre le pouvoir qu'on est pour l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il en est en Serbie ?
Non, ben c'est vraiment très contrasté. Il y a, en fait, dans les valeurs que défendent les étudiants, c'est vraiment des valeurs que l'Union européenne promeut. Mais par contre, l'Union européenne en tant que destin n'est pas vraiment l'enjeu. Il y a un regret que les Européens, que ce soit aussi les États membres particulièrement, n'aient pas plus soutenu le mouvement, ne soutiennent pas plus le mouvement. Mais il y a quand même ce sentiment de on le fera par nous-mêmes, on renversera, on changera la société par nous-mêmes. Mais donc c'est assez ambivalent, et là effectivement beaucoup de gens sont choqués de pas avoir de drapeau européen dans les foules de ces manifestants, mais c'est aussi un choix de n'afficher aucun drapeau autre que le drapeau serbe. C'est une décision des plénums étudiants, ça.
Amel Katarudza, juste un tout petit mot pour conclure. Vous étiez en Serbie dans les années 2000. Qui portait l'espoir que la Serbie intègre un jour l'Union européenne ?
Si vous voulez, moi je réagis à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu quand même un grand mouvement d'europhilie dans les années 2000, avec des occasions manquées. Thessalonique, le sommet de Thessalonique 2003, l'Union européenne dit vous avez vocation à rentrer dans l'Union européenne, et puis en 2008 ça va se réduire. Et de fait, ce qui se joue aujourd'hui, en fait, c'est le scepticisme vis-à-vis de l'Union européenne, c'est ce soutien à Alexander Vucic pendant des années, et finalement un retour un peu tardif sur on a fermé les yeux d'une certaine manière sur ce qui se passait en Serbie, et ça les Serbes le savent, et c'est pour ça effectivement qu'aujourd'hui, quand bien même les valeurs de l'Union européenne restent fortes dans la société serbe et portées par le mouvement d'étudiants, en réalité, ce qu'ils voient aussi, c'est ce soutien, ce qu'on a appelé la stabilocratie pendant les années 2010, où l'Union européenne soutenait des pouvoirs finalement autoritaires.
Stabilocratie de stabilité et pas de
stabilo.
Merci beaucoup Amel Katarudza et Louis Seyer d'avoir été avec nous, ainsi que vous Benjamin Couteau. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
6 jours après le passage de l'ouragan Mélissa, Catherine, les Caraïbes déplorent près de 60 morts. La Jamaïque, Cuba et Haïti continuent à évaluer les dégâts matériels.
L'ouragan Mélissa a remis en exergue les difficultés de la population aux Caraïbes et les lacunes de l'État. En Haïti tout d'abord, alors que les gangs continuent de semer la terreur du côté de Kenskoff et de la capitale Port-au-Prince, rappelle le quotidien haïtien Le National, le département de l'Artibonite, dans le nord-ouest d'Haïti, est doublement frappé. Inondé, submergé par le passage de l'ouragan Mélissa, plus d'une quinzaine de personnes sont portées disparues, rien que dans la commune de Grande-Saline, rapporte le quotidien Le Nouvelliste, des dizaines de maisonnettes détruites, les artères du centre et les routes sont impraticables. Le responsable de la protection civile, qui ne dispose que d'un mégaphone pour alerter les habitants, constate amèrement dans les pages du Nouvelliste que les Haïtiens sont livrés à eux-mêmes face aux catastrophes naturelles. Sachant que les civils étaient déjà à la merci des gangs, alerte Haïbo Post, dans ce département de l'Artibonite, une région agricole cruciale pour Haïti. Des crimes y incendie depuis cet été des plantations, des dépôts de céréales et des maisons d'agriculteurs, amplifiant l'insécurité alimentaire dans la région. Des membres de gangs ont même utilisé des sacs de riz et de maïs pour ériger des barricades dans la rue, note Haïbo Post, alors que la population en manque cruellement. Avec cette violence armée et l'ouragan Mélissa, les communautés paient le prix de l'incurie nationale, confirme un éditorialiste du Nouvelliste. Notre pauvreté, écrit-il, notre désordre institutionnel ont eu raison de tout bon sens. Mélissa, notre premier gros test pour la saison cyclonique en cours, nous rappelle que notre pays est situé sur la route des tempêtes. Elle nous rappelle aussi que nous sommes parmi les plus vulnérables au monde par rapport au changement climatique, écrit l'éditorialiste. Ces informations devraient nous porter à faire de la protection de l'environnement une priorité. Pourtant, d'une catastrophe à l'autre, quel que soit le bilan, nous faisons comme si de rien n'était une fois que le soleil revient, accuse l'éditorialiste du Nouvelliste.
Et en Jamaïque, les habitants des communautés dévastées le long de la côte ouest attendent toujours de l'aide après le passage de cet ouragan.
Et dans les pages du Jamaica Star, un paysan se lamente d'avoir tout perdu, de ses cultures de bananes plantains, d'igname, il ne sait plus quoi faire ni où aller. De nombreuses routes sont bloquées par des débris et les Jamaïcains se retrouvent isolés avec peu de nourriture, sans électricité, ni eau courante et sans savoir quand la situation reviendra à la normale, explique la BBC. Le gouvernement dénombre au moins 28 morts depuis le passage de l'ouragan monstre de catégorie 5, avec des vents frôlant les 300 km/h, mais ce bilan pourrait encore s'alourdir. Dire, prévient le quotidien Jamaica Gleaner, à mesure que les secours atteignent de nouvelles parties de l'île dans les prochains jours. Des corps partout, c'est ce qu'a vu Dwight Spence. Ce Jamaïcain travaille dans le secteur funéraire depuis 14 ans, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il a vu après le passage de l'ouragan Mélissa, confie-t-il au Jamaica Gleaner. Dans l'ouest de la Jamaïque, la paroisse de Westmoreland n'est plus qu'un amas de branches et de troncs brisés et tordus. Il recouvre le paysage sur des kilomètres, décrit la BBC. Des bâtiments rasés par la puissance des vents et des habitants qui marchent dans les décombres, impossible pour l'aide humanitaire de se frayer en chemin dans l'ouest de la Jamaïque.
Two-thirds of the island has no power. Less than half of it has communications. Nearly 400 water systems.
Les deux tiers de l'île sont privés d'électricité. Moins de la moitié dispose de communications et près de 400 réseaux d'eau potable ont été mis hors service par l'ouragan, raconte un correspondant de la chaîne télévisée CBS News. Trois hélicoptères militaires chinooks envoyés par les États-Unis sont arrivés en Jamaïque pour acheminer rapidement de l'aide humanitaire. Cinq autres hélicoptères sont en route, mais à Black River, la destruction semble sans fin dans cette localité. Le ministre des Transports jamaïcain a annoncé le déploiement de plus de 200 appareils Starlink à travers l'île pour aider la population à accéder à Internet, note la BBC. Et pour le journal britannique The Observer, la Jamaïque pourrait investir dans de nouveaux matériaux de construction pour s'adapter aux risques liés au dérèglement climatique. Mais le pays manque tout simplement de ressources financières. Et selon The Observer, ce serait aux pays du Nord de régler cette facture climatique dont les pays du Sud font les frais alors qu'ils n'aggravent pas la crise. Un problème d'inégalité aussi à Cuba. L'ouragan Mélissa a rappelé les difficultés de la population face au blocus économique de Washington contre la Havane, rappelle le média 14 y Medio. Si le gouvernement cubain a annoncé ce week-end qu'il financerait la moitié des matériaux pour reconstruire les habitations dévastées sur l'île, cette mesure sera difficile à mettre en œuvre selon 14 y Medio à cause du manque d'acier, de briques ou de composants électriques à Cuba. Les États-Unis ont annoncé hier une aide humanitaire de $3 millions $1 à destination des Cubains, annonce le Diario Las Américas, mais ce sera en coordination avec l'Église catholique, précise la Deutsche Welle et 14 y Medio. Pas question de passer par le gouvernement cubain.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Et puis j'ajoute pour tous les auditeurs et auditrices intéressés par ce qui se passe dans les Balkans en ce moment, qui était le sujet de notre émission aujourd'hui, eh bien que vous pouvez aller lire tous les articles sur le sujet dans Le Courrier des Balkans. C'est Amel Katarouza qui y travaille, qui me l'a rappelé. Dans un instant, les Midis de Culture.